Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Alors, Frédéric Danez est journaliste, spécialiste des questions environnementales, auteur, chroniqueur, vulgarisateur. Bonjour Frédéric.
Bonjour Dominique.
Alors, vous avez dit, j'ai fait de l'écologie mon métier, ma passion, mon engagement. Et c'est vrai, on vous a entendu souvent aux côtés de Denis Chessou, dans l'émission CO2 Mon Amour, sur France 5 aussi, et puis dans TV Ushuaïa. Alors, racontez-nous un peu votre parcours. On va parler bien sûr des sols, puisque c'est le sujet de notre émission et que cela vous passionne. Mais d'abord, un peu, qui êtes-vous ?
Qui suis-je ? Je suis un historien contrarié qui a fait des sciences, qui a fait de l'écologie en fac, qui est venu à l'écologie par Cousteau, par Hulot, par Poudrin-Dubourg, par Hubert Reeves. C'est eux qui m'ont donné envie de faire de l'écologie. Et puis un prof de fac exceptionnel qui s'appelait Serge Frontier. Et j'ai fini ma fac dans son labo, le laboratoire d'écologie numérique à Lille. Et j'ai eu mon diplôme d'ingénieur écologue en fin 92, et tout ça...
Donc
tout un
vrai naturaliste, alors
hein. Ouais, naturaliste, je sais pas, en tout cas, je me revendique comme un scientifique de l'écologie, donc un écologue, c'est-à-dire l'écologie, pour moi, c'est un peu comme le cinéma, c'est le point de rencontre de toutes les sciences, et qui explique le fonctionnement du monde, dont l'homme, et le fonctionnement de l'homme avec autour de lui le reste du monde. C'est une forme de sociologie, mais qui convoque toutes les sciences, un peu comme le cinéma convoque tous les arts. Et puis, mes deux dernières années de fac, j'ai commencé à écrire pour la presse, puis j'ai continué pendant mon service militaire, et puis je suis comme ça devenu journaliste tout doucement, en commençant par Géo, ça m'intéresse, National Geographic, ensuite, vous l'avez dit, France Inter pendant 10 ans, France 5, beaucoup, Ushuaïa TV, et aujourd'hui, je bosse pour Marianne, je suis un récurrent, comme on dit, sur les plateaux de télé. Et puis j'anime beaucoup de débats et c'est ce qui me nourrit le plus. Je parcours la France à animer ou à assister à des débats ou à faire des confs. Et c'est là où je sens les choses et c'est là où j'ai commencé à sentir il y a une dizaine d'années que le sol, ben, on en parlait peu et on devrait en parler plus.
Alors justement, on va en parler beaucoup aujourd'hui, donc puisque maintenant on a vu un petit peu qui vous étiez. Donc la survie de notre planète, bien sûr, dépend du lien précieux qu'elle a avec les sols, hein, et sur lequel se base plus de 95% de notre alimentation, entre autres, parce qu'il y a bien d'autres choses. Et en 2018, vous avez publié un ouvrage sur le sol chez Flammarion, un ouvrage qui s'appelait « Le sol, enquête sur un bien en péril ». Alors, donc, c'est une enquête, vous avez conduit une investigation, et dites-nous un petit peu déjà comment vous avez conduit cette investigation, parce que finalement, ce n'était pas seulement le résultat du labo.
Ah non, ce n'était pas que du labo, c'était alors, des rencontres avec des chercheurs, des paysans, aller sur place voir ce qui se passe, et dans les labos, et chez les paysans, et dans les collectivités, enfin là où le rapport au sol s'observe. Et en fait, pour tout vous dire, hein, au départ, c'était une idée de mon éditeur chez Flammarion qui m'a dit, bah tiens, j'ai regardé, il n'y a aucun livre sur les sols grand public en France. Et effectivement, il n'y en avait aucun, donc il m'a demandé de m'en occuper. Et donc, vous savez ce que c'est, hein, c'est un an d'enquête, de biblio, de rencontre pour aboutir au constat que le sol est un impensé, c'est-à-dire on fait sans cesse référence à lui sans le nommer, et c'est tellement un impensé qu'il n'existe pas en droit, il n'a pas de valeur juridique. Et depuis la sortie du livre, les choses ont changé. Alors, je sais...
Alors, pourtant, c'était récent, hein, puisque 2018, c'est pas si vieux que ça, finalement. Et avant, on en parlait quand même... Enfin, c'est une notion assez récente, finalement, quand même. Une préoccupation récente.
C'est une préoccupation récente. En fait, c'est assez paradoxal, parce que le sol... a été, alors le sol en tant que science, hein, c'est une création ukrainienne, hein, c'est depuis Tchaïev, je ne sais plus quelle époque, fin 19e, début 20e, le sol a été une préoccupation très forte de Lénine, par exemple. Et puis, entre les deux guerres mondiales, le sol a été un objet scientifique très important en France. Le sol en tant qu'écosystème et en tant que science. Et puis ensuite, le remembrement, la révolution agricole des lendemains de la Seconde Guerre mondiale ont fait oublier le sol. Le sol n'a plus d'importance qu'en tant que surface qui était censée créer de la valeur pour l'agriculture, de la valeur pour l'immobilier. Et
on va en parler, mais en fait, on savait très peu de choses. Donc, quand vous avez commencé à écrire ce livre, donc on peut dire que vous êtes un peu quand même à l'origine de beaucoup d'informations dans ce que vous avez, dans vos rencontres. Vous avez rencontré des gens qui à la fois souffraient et vivaient de ces sols.
Tout à fait, Dominique, et merci pour le compliment. Effectivement, mon livre, il est arrivé à point nommé, il est arrivé à un moment où la société, appelons-la comme ça, était prête à entendre quelque chose d'autre et avait besoin de verbaliser quelque chose sur les sols. Et c'était très frappant chez les chercheurs de l'INRAE, qui se sont servis de mon livre comme un peu...
Alors l'INRAE, on rappelle, c'est l'Institut National de Recherche Agronomie qui a mis un E depuis peu de temps
pour faire
environnement. Mais enfin, ça reste quand même la recherche agronomique. Bon, voilà.
Bien sûr, et c'était très révélateur, si vous voulez, Dominique, parce que l'INRAE a toujours été le bras armé de l'État en matière d'agronomie et de politique agricole. Et l'INRAE, avant qu'elle n'existe, donc les labos d'avant l'INRAE s'occupaient beaucoup des sols durant l'entre-deux-guerres, et puis ensuite l'INRAE a oublié les sols parce que pour l'État, le sol n'était plus un objectif en soi. Ce qui comptait, c'était d'augmenter la productivité. Et l'INRAE, à partir des années 70, surtout les années 80, a commencé à s'y intéresser à nouveau. Et puis, ça a stagné, ça a duré. C'était une science ancienne qui était un peu dévalorisée. Et je suis arrivé, et depuis ce temps-là, on ne parle plus que des sols partout, tout le temps.
Alors, justement, on va y revenir. Donc, dans votre enquête, et puis de l'actualité d'aujourd'hui, vous tirez trois grandes leçons. Il y a les sols nourriciers, qui ne sont plus vivants aujourd'hui, on va en parler. Ils sont bétonnés, donc c'est une deuxième chose, des sols bétonnés. Et puis, en plus, des sols qui sont soumis aux effets du réchauffement climatique. Et les gens commencent à s'en préoccuper. Et c'est marrant parce qu'ils ne s'en préoccupent pas comme un substrat dont on va parler tout de suite, qui les nourrit. Mais finalement, c'est cette espèce de truc qui se dérobe sous leurs pieds. On a vu récemment, d'ailleurs, aux 20h, des maisons où on voit des trous mous, des maisons qui s'effondrent, des maisons qui se lézardent, etc., et dont on va parler également. Alors, la première leçon qui sort de votre ouvrage, c'est qu'est devenu notre sol vivant et nourricier. Alors, c'est vrai, on accuse bien sûr l'agriculture industrielle. Elle est venue directement après-guerre. Il fallait nourrir le monde. Mais immédiatement, il a fallu aussi exporter. Et il a fallu faire du rendement. On utilise ce mot que j'aime pas du tout. Il faut faire rendre le sol. Il faut que le sol rende quelque chose. Alors, cette période-là, c'est vraiment le début des déboires.
C'est ça. Puis ça, alors, ça correspond, vous l'avez dit, Dominique, donc il fallait nourrir la France. Ensuite, nourrir la France est devenu un prétexte. Quand en 62, De Gaulle a convoqué dans son bureau Pisani, je le raconte dans le livre, en lui disant, de toute façon, avec la reconstruction, l'Allemagne va encore nous dépasser en matière d'industrie. Finalement, notre seul créneau à occuper pour devenir une grande puissance, c'est l'agriculture. Et donc, vous, Pisani, demandez à vos agriculteurs de produire, d'exporter pour la gloire de la France. En gros, c'était ça. Et c'est ce qu'on a fait. Moyennant quoi, l'agriculture a en premier lieu, parce que c'est la première cause d'altération des sols, on a déstructuré les sols en les labourant trop profondément, trop longtemps. Ensuite, on les a gavés d'engrais, ce qui a rendu difficile pour les plantes d'aller plonger leurs racines, duquel elles étaient largement nourries par les engrais. Or, c'est des racines qui aussi font le deuxième labour du sol, mais un labour lent. Et puis ensuite, on a balancé des pesticides. Moyennant quoi, on a des sols, alors qu'ils ne sont pas morts, il n'y a pas de sols morts en France. Même sous du macadam, on retrouve encore suffisamment de mycorhizes pour recréer un début de matière organique si on fout la paix au sol. Mais on a diminué les taux de matière organique des sols au point qu'aujourd'hui, sans engrais, les sols ne pourraient pas porter les cultures qu'elles portent aujourd'hui. Le bon côté des choses, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui et qu'on sait comment faire à peu près pour restaurer la vitalité d'un sol. Il ne faut jamais oublier que le sol, c'est un écosystème.
Oui, j'allais vous demander, c'est irréversible ce truc, cette dégradation des sols ?
Non, c'est pas irréversible. On le sait parce que c'est étudié. Alors, il y a un labo qui travaille très bien. J'en ai fait le portrait dans ce bouquin. Hein, c'est le labo de l'INRAE, de l'antenne de l'INRAE à Dijon. C'est le labo de Lionel Rangard qui travaille depuis toujours sur les micro-organismes du sol. Alors, il y a les vers de terre et il y a les micro-organismes, les champignons, les bactéries. C'est sans doute les champignons qui agissent le mieux pour faire ce labourage fin et amener la matière organique dans les sols. On sait que dans la Beauce, par exemple, où il n'y a plus grand-chose, tellement ça a été labouré, il y avait de pesticides et d'engrais, on sait que là où on arrête les pesticides et les engrais, on recommence tout doucement à voir des organismes qui s'installent et qui n'étaient plus là, et on commence à voir une augmentation du taux de matière organique, c'est-à-dire de matière vivante, dans le sol. Donc ce n'est pas irréversible. Là où c'est irréversible, c'est quand on perd un sol. Et quand on perd un sol, c'est 11, 12, 14 000 ans d'histoire, et ça... On ne sait pas reconstituer un sol de 2 mètres de profondeur. On peut faire ce qu'on appelle des technosols à partir de bouts de stations d'épuration, d'écorce de pin, et on injecte un peu de champignons, puis on obtient une espèce de sol, mais un sol tel qu'on le connaît, nous, en France, et en France, on a la plus grande diversité de sols au monde, eu égard à la surface. Un sol riche, un sol, on ne peut pas le recréer. Ça, c'est sûr.
Alors, il y a une chose dont vous n'avez pas parlé. Vous avez parlé des engrais, vous avez parlé des pesticides, etc.
Ouais.
Et puis, il y a eu ce fichu remembrement, c'est-à-dire que avant la guerre et juste après, on avait tout un pays qui était quadrillé avec des haies, etc.
Ouais,
et puis, on vient de se rendre compte, d'ailleurs, avec le changement climatique, ça a accentué et ça a permis à toute une jeune génération de comprendre, sans l'avoir vécu, à quoi servait le remembrement. Donc ces sols, finalement, ils fichent le camp aussi.
C'est ça, j'en ai parlé sans en parler. Quand j'ai parlé du labour, le labour a été largement permis par le remembrement, parce qu'il n'y avait plus d'obstacles à la circulation des charrues. Bien sûr, le remembrement a été... Il y a eu deux effets. Un, ça a facilité, je viens de le dire, le labour, et puis tout le reste, les pulvérisations d'engrais de pesticides.
Oui, des grandes étendues.
Voilà. Et puis deuxièmement, sur des grandes monocultures, vous n'avez plus, les insectes ou les oiseaux qui vont bouffer les parasites, en fait, ont trop d'espace. Et donc, en gros, un insecte, un carabe qui vient bouffer les limaces, il parcourt 80 à 100 mètres dans sa journée. Quand vous avez une parcelle qui fait 200 mètres, il s'arrête à 100 mètres. Il va pas au-delà. Ensuite, il rebrouille le chemin. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a augmenté encore un peu plus le besoin de pesticides parce que ces grandes parcelles ont empêché le travail des pesticides naturels que sont insectes certains insectes et oiseaux. Et ça a été un effet cumulatif. Et puis ensuite, les sols, parce qu'ils étaient trop labourés, ont perdu de leur fertilité. Donc, on leur a rajouté de la fertilité artificielle, laquelle a fait perdre encore un peu plus de fertilité naturelle. Et là, c'est l'enchaînement fatal dans lequel certains sols sont tombés, comme ceux de la Beauce, où il n'y a plus grand-chose.
Alors, la deuxième leçon que vous tirez, c'est que notre sol, c'est aussi le sol des villes, bien sûr, et qu'il est très bétonné. Et alors, je vous cite, vous dites, 6 mètres carrés, soit l'équivalent d'un studio, voilà la surface de terre fertile dont la France est amputée chaque seconde, sous la pression du macadam, des zones pavillonnaires, des hypermarchés dont notre pays est le champion. Alors, c'est terrible. Et comment on peut résister à ça ?
Ouais, 16 mètres carrés, oui, par seconde. Alors, c'est un chiffre, c'est une moyenne. En fait, il est très difficile de le mesurer. Les chiffres d'un rapport à l'autre varient de 1 à 5. Bon, bref, en tout cas, c'est à peu près ça, c'est 16 mètres carrés pour fixer les choses. Comment on peut ? On sait faire. On sait faire. C'est ce qui s'appelle la désartificialisation. On peut retirer le macadam pour permettre l'infiltration directe de l'eau de pluie dans le sol. Ce qui a une vertu, c'est que ça abreuve des arbres qui vont pousser en été et faire de l'ombre en ville. Et ça, c'est très bien contre le changement climatique. On peut, en sacralisant, entre guillemets, le foncier agricole, si tant est que l'agriculture cesse de labourer autant, d'utiliser autant d'engrais, de pesticides, etc. Il y a plein d'armes juridiques, il y a plein de lois que les ne savent pas utiliser parce que ceux qui ne les connaissent pas, parce que la loi est complexe en France. Et puis il y a le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui était une loi...
Oui, alors parlons un petit peu du ZAN, justement. Donc c'est une loi qui vient juste de sortir, le ZAN, donc zéro artificialisation.
En 2021,
oui. Oui, 2021. Et alors, j'ai un peu l'impression... C'était compliqué quand même, parce que on a besoin de logements. Enfin, nous, on le voit par exemple sur Montpellier, hein, où on a une énorme arrivée et puis on a peu de territoire aussi. Et donc, il faut bien sûr satisfaire les besoins en logement, en infrastructure, et puis on a l'artificialisation de nouveaux espaces. Puis en même temps, on a une demande d'une ceinture agricole proche. Alors, comment on arrive à gérer tout ça, quoi? C'est compliqué quand même, c'est vrai.
Ah bah pour un élu local, c'est un enfer, Dominique. Vous le savez bien, vous avez tout dit. Et c'est d'autant plus un enfer que les ressources financières des communes se sont taries, parce qu'il n'y a plus la taxe d'habitation. Il n'y a quasiment plus que, hormis les subventions de l'État, il y a quasiment plus que les taxes foncières. Et donc, pour engranger des taxes foncières, des impôts fonciers, il faut construire, il faut aménager, il faut faire des zones commerciales, etc. Or, on dit, avec ça, vous ne pourrez plus. Mais dans ce cas-là, nous, communes, comment on fait pour vivre et comment on fait pour accueillir de nouveaux habitants?
Alors, la loi n'est pas respectée, alors?
La loi ZAN n'a jamais été vraiment. En plus, elle a été en partie vidée de sa substance par le Sénat, qui a... qui a donné la parole justement des élus locaux qui ne s'en sortaient plus dans ces contradictions. Alors il faut dire que les lois françaises sont bavardes, et cette loi est particulièrement bavarde et difficile à comprendre, donc difficile à appliquer pour des élus de collectivités qui n'ont pas l'ingénierie pour l'appliquer, simplement la comprendre et la mettre en œuvre. Après, c'est quand même dommage de ne pas l'appliquer, parce que inévitablement, ce dont on aura le plus besoin demain pour s'adapter au changement climatique, ce sont des sols vivants. En tout état de cause, la loi telle qu'elle est aujourd'hui permet d'urbaniser tout en gardant des sols de qualité. Elle le permet parce qu'il y a une réserve foncière qui a été créée à l'échelle nationale, qui est gérée à l'échelle de la région. Donc aujourd'hui, un maire qui dit qu'il ne peut pas construire, c'est pas vrai. On peut toujours construire, mais c'est nettement plus limité qu'avant. Il a notre prix, Dominique, c'est de construire là où on a déjà construit, c'est de remplir les dents creuses, c'est-à-dire les espaces vacants, les friches, si vous voulez, au sein des villes. Après, il faut reconnaître que c'est compliqué.
Il faut peut-être faire une planification aussi. Et on vient de voir que comment la seule planification qui avait été mise en place vient d'être supprimée.
Mais le problème de la planification, c'est qu'on n'en fait plus. La planification, c'était un outil très gaulien, si j'ose dire, très pompidolien, mais on n'en fait plus parce que, sous prétexte de décentralisation, ce n'est plus à l'État de dicter les choses. Or, il en faut une de planification. Et avec le ZAN, et avec, justement pour essayer à la fois de permettre au territoire de construire plus de logements, d'accueillir plus d'activités économiques, tout en préservant les agriculteurs, il faudrait une planification, et qui sera sans doute à l'échelle de la région, via des documents de planification qui s'appellent les SRADET, et qui sera mise en œuvre à l'échelle non plus des communes, mais des collectivités. Ça, on y arrive.
Vous êtes optimiste
oui,
là-dessus.
Oui, on va y arriver inévitablement, parce que je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. D'ailleurs, on le voit bien, il y a de plus en plus de compétences qui passent de la commune à la collectivité, notamment les compétences sur l'eau. Et demain, ce sera sans doute l'usage des sols sera dicté à l'échelle de ce qu'on appelle les EPCI, hein, les communautés de communes, pour faire court, plutôt qu'à l'échelle de la commune. On va revenir à la planification. À mon avis, on ne pourra pas faire autrement.
Alors, on a un troisième problème aujourd'hui qui apparaît. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. C'est finalement le sol victime des effets climatiques. C'est-à-dire que le support de nos maisons est en train de partir aussi. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a toujours eu des sécheresses, mais elles étaient pas très longues et pas très nombreuses. Maintenant, elles sont de plus en plus longues, de plus en plus répétitives. Un sol, finalement, qui était à une certaine profondeur, résistait. Mais maintenant, nos maisons se fissurent. Et par rapport à ça, c'est un vrai gros problème aujourd'hui.
Ah ben ça, c'est le premier problème, Dominique. C'est le premier problème pour les assureurs. C'est-à-dire qu'il y a une maison sur deux qui est soumise au risque RGA, c'est-à-dire rétractation, gonflement des argiles, parce que en France, il y a beaucoup d'argiles, sauf que ces argiles, qui réagissent toujours comme des éponges à l'eau, donc ça gonfle quand il y a un peu trop d'eau, et puis ça se rétrécit, ça se rétracte quand il y en a moins, sauf que là, vu que le climat a changé, et que le climat changeant, les quantités d'eau qui tombent sur ces argiles changent de façon imprévisible et toujours brutale, eh bien ce risque RGA ne peut que s'amplifier. Et les assureurs, ça devient le risque RGA, hein, comme on l'appelle, le risque RGA est devenu le premier risque assuré par les assureurs en termes d'indemnisation, à tel point que...
On dit que c'est 400 millions d'euros par an, le montant.
C'est ça.
C'est énorme.
C'est ça, et c'est pour assumer ce risque, hein, que la ligne catastrophe naturelle sur nos assurances maison est passée de 12% de la cotisation à 20%, en grande partie pour tenter de financer ce risque-là. Et qui s'aggrave année après année.
Donc on ne sait même pas si ça va pouvoir durer alors.
Ben non, parce que quand vous voyez, hein, vous citiez aux 20h là, ces maisons dans l'Orne avec tout d'un coup, vous levez le matin, tout d'un coup il y a un trou énorme, ben, c'est pas étonnant. De l'archile, quand il est saturé de flore, ben, il finit par foutre le camp, par glisser. Chez moi, ici à Brunois, dans le nord de l'Essonne, c'est un peu ça. Alors moi, je suis dans le centre-ville, qui bouffonne, mais on le voit, j'ai fait 100 mètres, hein, des maisons relativement...
Là, on vous entend très mal, Frédéric. On est en train de vous perdre un peu, là. Est-ce que vous
pouvez...
Voilà, allez-y. Non, mais on avait une très mauvaise audition, c'est pour ça.
Pardon. Non, je sais plus ce que je vous disais.
Vous étiez en train de me dire que chez vous, dans l'Essonne, en centre-ville, vous l'aviez moins, mais que finalement, autour de vous...
Là, on l'a moins, c'est des maisons anciennes qui ont été construites selon le terrain sur lequel elles l'ont été. C'est-à-dire, c'est des maisons assez plastiques qui bougent avec le terrain. Mais les maisons construites il y a 30-40 ans en parpaing avec du placo à l'intérieur, ces maisons d'un seul tenant sont pas faites en fait pour épouser les mouvements du sol, donc elles se fissurent très vite. Et d'ailleurs, quand elles prennent l'eau aussi lors d'une inondation, elles ne sèchent pas vite. Et il suffit de faire 100 mètres, parfois 50 mètres, pour tomber sur un risque important. Ce que je veux dire par là, c'est que les sols sont aussi victimes du changement climatique, bien évidemment, ils répondent au changement climatique. Et demain, oui, il y a peut-être des endroits où, si ce n'est à reconstruire ou à construire sur des pylônes, sur des pilotis, comme en zone inondable, il y a sans doute des endroits, des quartiers, des hameaux qui vont devenir inhabitables à cause de cette fuite du sol.
Donc ça va être de plus en plus observé?
Oui. Oui, il y a des endroits où les endroits où il y a de la marne, par exemple, où il y a de la marne verte, où il y a du gypse, les endroits qui ont été construits, les quartiers qui ont été construits sur d'anciennes carrières, par exemple, hein, c'est le cas de beaucoup de zones en petite couronne de la banlieue parisienne. Oui, ça va devenir problématique. Quand on est construit sur une carrière, par exemple, à l'infiltration de l'eau, quand il y a trop d'infiltration d'eau, ça finit par creuser le trou qui est en dessous, jusqu'à ce que le sommet du trou rejoigne la cave, et ensuite vous avez la maison qui tombe un peu. Oui, c'est un risque important. Enfin, c'est plus qu'important. Ce sera le risque majoritaire demain.
Alors, vous dites que ça va être le risque majoritaire, mais on parle même de villes qui s'enfoncent de plus en plus. Enfin, on parle de New York, de Jakarta, de Shanghai. Alors, Jakarta, bien sûr, la plus, puisque c'est 10 cm par an, donc c'est très rapide. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, et c'est le poids de la ville qui fait que la ville s'enfonce. C'est les villes qui sont au bord de l'eau.
C'est ça. C'est deux choses, Dominique. Un, c'est la ville, donc elle poids. Deux, il y a le fait qu'elle pompe tellement d'eau dans la nappe qu'il n'y a plus ce coussinet d'eau qui soulevait la ville, si vous voulez. Donc, quand vous avez moins d'eau dans la ville, eh bien, le poids de la ville finit par l'emporter. La ville n'est plus soulevée par l'eau, donc la ville descend. Et en plus, elle descend d'autant plus que la mer commence à grignoter ses bases. Donc oui, vous avez des villes comme New York qui s'enfoncent quelques centimètres tous les 10 ans. Je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais... Ça, c'est plus lié au pompage effréné des nappes phréatiques qu'à une mauvaise gestion des sols. Mais oui, ça montre au moins à quel point l'homme a un impact sur son environnement. C'est-à-dire qu'il a bâti des villes qui sont potentiellement destructibles par leur présence même. C'est fou.
Ce dernier problème, vous le séparez un peu des autres,
oui.
D'accord, c'est-à-dire que c'est un petit peu à part, c'est plus lié à la montée des eaux et plus lié aux villes qui ont été construites en bord de mer.
Oui, c'est au fait qu'elles sont en bord de mer et qu'on a trop pompé dans les nappes phréatiques qui sont elles-mêmes en bord de mer.
D'accord.
C'est plus lié à ça.
Alors maintenant, donc le, tout ce que vous venez de nous dire, bon, c'est un tableau qui est bien noir pour l'avenir, hein, face au changement climatique et à l'activité humaine. Donc on voit que les sols se dégradent. Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines tendances sur lesquelles on bosse beaucoup en ce moment et que c'est quelque chose qui est pris au sérieux, ou c'est comme pour le réchauffement climatique? Enfin, chez nous, par exemple, il y a beaucoup de déni concernant la montée des eaux. Et est-ce que pour les sols, vous mesurez la même chose ou...
Non, ça a vachement avancé, ça a vachement changé, Dominique, ça, c'est un, dans nos métiers déprimants, il y a quelque chose quand même, moi, qui m'ordonne un peu d'espoir, c'est ça, il y a une, c'est plus qu'une prise de conscience, c'est vous avez l'ensemble du monde agricole qui, tout doucement, est en train de changer ses pratiques sur les sols, c'est-à-dire il y a de moins en moins de labour, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle de conservation des sols, donc on laboure moins, mais surtout, on laisse les sols, non seulement on les laboure plus, mais on les laisse couverts en permanence, y compris en hiver, même quand il n'y a pas de culture, c'est-à-dire qu'on fait de l'interculture de façon à ce que les sols soient isolés des éléments, du gel, du vent, de la pluie, du soleil, par toujours une couche de végétation de 10, 15, 20 cm. Et ça, c'est plutôt réjouissant, parce que ça veut dire que c'est des sols qui sont moins susceptibles de s'éroder, c'est des sols dont le taux de matière organique ne peut qu'augmenter, et parce que le taux de matière organique augmente, et parce que ces sols sont moins labourés, c'est des sols qui vont plus capter de carbone, et surtout, plus capter d'eau. Il ne faut jamais oublier que la première réserve d'eau utile dans le monde, c'est les sols. Hein, 60% de l'eau de surface se trouve dans les sols, et 40%, c'est les lacs, les étangs et les rivières.
Donc, en fait, on lit deux choses, quoi. Le futur de l'eau et le futur de nos sols.
Exactement. Mais les deux sont liés. Vous savez, les agences de l'eau qui gèrent l'eau en France s'appelleront demain, je vous fais le pari, les agences de l'eau et des sols, parce que les deux sont liés, intimement liés. Et souvent, quand on agit sur les sols, on agit sur l'eau et inversement. Au moins de ce côté-là, je trouve que les choses avancent et qu'elles avancent bien.
Bon, ben, ça, c'est très agréable d'entendre ça et de savoir, on en reparlera sans doute. Donc, merci Frédéric Denez. Au revoir. Je suis sûre qu'on aura l'occasion de reparler des sols. Alors, la semaine prochaine, on va découvrir ensemble l'histoire d'une forêt engloutie à 1 km des côtes de Palavas, une vieille forêt qui a 8000 ans et qui a été découverte en 2020 et qui aujourd'hui, grâce à un certain nombre de recherches, commence à donner un peu de son histoire.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kg de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.